Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition des 17h30, temps universel de ce mardi 23 juillet 2019. John Lydon à la présentation, tout d'abord les titres de cette édition. Au Cameroun, le calme est revenu à la prison centrale de Yaoundé, théâtre hier d'une révolte qui a fait plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Du sang neuf à la tête du G5 Sahel, un nouveau commandant de cette force anti-djihadiste a été nommé ce mardi. Il s'agit du général nigérien Umaru Namata Gazama. Boris Johnson, futur premier ministre de Grande-Bretagne, ce pro-Brexit, a été désigné par les militants de son parti conservateur. Le sida, sujet de toutes les attentions au Mexique, où se tient en ce moment une conférence internationale. La maladie a tué plus de 770 000 personnes en 2018, selon l'ONU. Mais il y a espoir. Et puis, ne manquez pas l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Cameroun, on en sait un peu plus sur la mutinerie d'hier dans la prison centrale de Yaoundé. Elle avait donné lieu à des coups de feu, des saccages et autres incendies. Les forces de sécurité camerounaises sont intervenues dans la nuit de lundi à mardi pour réprimer cette révolte de détenus séparatistes et politiques qui protestaient contre leur détention en se filmant sur via Facebook. Il y aurait de nombreux blessés et plusieurs dégâts matériels. Ce mardi, malgré le retour au calme, un impressionnant dispositif sécuritaire a été implanté autour du pénitencier. À Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
À l'issue d'une réunion de sécurité tenue ce mardi matin, le préfet de Fondi, dont Yaoundé est le chef-lieu, a annoncé que la situation est désormais sous contrôle à la prison centrale. Mais les autorités n'ont pas baissé la garde. Deux unités spéciales de lutte contre le grand banditisme et le terrorisme, de la police et de la gendarmerie, ainsi qu'un détachement de militaires du bataillon du quartier général quadrille désormais la prison. La fouille générale y a été ordonnée ce matin. La presse a également pu accéder aux locaux pour constater l'ampleur des dégâts matériels. L'infirmière, la bibliothèque, la salle d'informatique, quelques bureaux ont été vandalisés ou incendiés. Des grilles qui conduisent vers le quartier VIP où sont détenues les hautes personnalités ont été détruites. Certaines de ces hautes personnalités ont été molestées par les mutins, ont affirmé les responsables de la prison. D'autres sont blessés légèrement et ont été dépouillés de leur argent durant la mutinerie, a appris VOA Afrique de sources officielles. Le ministre de la Justice, qui a visité la prison aux premières heures de la journée, a ordonné la reconstruction rapide des grilles saccagés du quartier VIP. Pour le moment, aucune évaluation complète n'est possible, a mentionné le préfet de Mfundi. Pour des raisons de sécurité, certains détenus ont été transférés ailleurs. Il n'y a eu aucune évasion ni de mort, selon le responsable de la prison centrale de Yaoundé. La mutinerie d'hier a provoqué le renvoi ce mardi au tribunal militaire du procès des 10 leaders séparatistes anglophones. Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur les incidents d'hier. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Et cette réaction justement du gouvernement camerounais qui nous parvient à l'instant sur cette mutinerie à la prison centrale de Yaoundé. On apprend ainsi que 177 détenus ont été interpellés à l'issue des incidents survenus hier. Ceux-ci sont exploités pour des besoins d'enquête. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement camerounais dans un communiqué de presse lu sur les antennes de la radio d'État. Le communiqué du gouvernement indique également qu'il y a eu 2 blessés lors de ces incidents qu'il qualifie d'insurrection violente savamment planifiée. C'est un nouvel homme qui prend les rênes du G5 Sahel, le général mauritanien Anena Ould Sidi, qui était en poste depuis juillet 2018. Vient de céder sa place au général nigérien Umaru Namata Gazama. Que dire de cet homme et quels sont les défis qui l'attendent au sein de cette force anti-djihadiste? Élément de réponse avec Nathalie Barge.
Umaru Namata Gazama succède au général mauritanien Anena Ould Sidi en poste depuis juillet 2018. Il a été promu général de brigade en 2017 et nommé chef d'état-major adjoint de l'armée de terre du Niger l'année suivante. Son arrivée à la tête de la force du G5 intervient avant la tenue en septembre à Ouagadougou d'un sommet extraordinaire sur la sécurité dans l'espace CDAO. Le G5 Sahel a réactivé en 2017 son projet de force conjointe, initialement lancé en 2015 avec l'appui de la France. La force qui doit atteindre 5000 hommes à pleine capacité avait connu un coup d'arrêt avec l'attaque de son quartier général de Sévaré dans le centre du Mali en juin 2018. Le QG a ensuite été transféré à Bamako. Lors du sommet de l'Union africaine début juillet, le président nigérien Mamadou Issoufou a appelé à la formation d'une coalition internationale sur le modèle de celle en Irak et en Syrie. À défaut, il a demandé aux Nations Unies de donner plus de moyens au G5.
Et à propos de djihadisme, l'évêque de Bemba dans le nord du Mozambique accuse le gouvernement et l'armée de ne pas agir suffisamment pour contrer les attaques djihadistes qui secouent cette région depuis près de 2 ans. C'est commentaire de Mgr Luiz Fernandez, également président d'une commission épiscopale pour la justice et la paix, intervient avant une visite du pape François au Mozambique en septembre. Il se rendra également à Madagascar et à l'île Maurice. Des djihadistes armés terrorisent depuis octobre 2017 les communautés les plus reculées de la province à majorité musulmane de Capo Delgado, Richangaz. Au moins 250 personnes y ont été tuées et plusieurs contraints de fuir la zone. 12 civils, donc 2 enfants, ont été tués à la machette et par balle dans 2 attaques attribuées aux milices ougandaises musulmanes des forces démocratiques alliées, les ADF, dans le territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les précisions avec Bagassi Koura.
Les 12 personnes ont été tuées lors de 2 attaques simultanées à Beni territoire. L'attaque a été attribuée aux ADF, selon Donat Kibouana, administrateur du territoire de Beni, à Oisha Mabasele. Les ADF ont fait irruption dans l'agglomération. Ils ont tué 9 civils et 4 sont blessés. Il y a 2 enfants parmi les victimes, a-t-il précisé. Au même moment, dans une autre localité plus au nord, à Eringeti, les mêmes assaillants tuaient 3 civils et blessaient grièvement 3 autres. Toutes ces tueries auraient eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, selon les mêmes sources. L'armée a confirmé ces attaques, disant par la voix d'un de ses porte-parole avoir riposté. Des habitants ont une nouvelle fois critiqué l'impuissance des autorités à stopper ces massacres qui se produisent régulièrement dans la région.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le champion des pro-Brexit, Boris Johnson, a été désigné ce mardi par les militants du Parti conservateur britannique pour succéder à la première ministre Theresa May. Le nouveau leader britannique a promis immédiatement un départ de l'Union européenne le 31 octobre. Les précisions avec Dilly Dico.
Boris Johnson, ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères, opposé à l'actuel chef de la diplomatie, Jeremy Hunt, a remporté 66% des voix des quelques 159 000 membres du parti qui se sont exprimés. Il devient ainsi chef des Tories et prendra officiellement ses fonctions mercredi après une visite à la reine Elisabeth II. Premier grand dirigeant international à réagir, Donald Trump lui a adressé ses félicitations. Le président américain a tweeté que Boris Johnson sera formidable et qu'il fera un excellent travail au 10 Downing Street. Dans le contexte tendu du Brexit, la Commission européenne a également félicité le nouveau Premier ministre, farouche défenseur du retrait britannique de l'UE. Dès l'annonce des résultats, il a déclaré à la tribune qu'il allait mettre en œuvre le Brexit le 31 octobre. Pendant sa campagne, Boris Johnson avait souligné qu'il voulait que ce divorce historique ait lieu coûte que coûte à cette échéance, quitte à sortir de l'UE sans accord.
Et s'il y a un dossier que Boris Johnson trouve sur sa table, c'est bien celui de l'Iran. Téhéran qui a adressé ce mardi un avertissement à celui qui vient d'être désigné pour être le nouveau premier ministre britannique, en affirmant que l'Iran comptait bien protéger le Golfe en pleine crise des tankers entre la République islamique et la Grande-Bretagne. Nous avons plus de 2400 kilomètres de côte sur le Golfe Persique. Ce sont nos eaux et nous les protégerons, a écrit le ministre des Affaires étrangères iranien. La Grande-Bretagne fait partie des 3 États européens signataires de l'accord de Vienne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. La L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
Le groupe nucléaire français Orano va poursuivre ses activités dans le nord du Niger, même si ses deux filiales dans le pays, Somaïr et Kominak, ont connu des difficultés à assurer ce lundi son directeur général Philippe Gnoch. Il a aussi affirmé que le chantier de la mine d'Imouraren pourrait démarrer dès que les conditions des marchés le permettraient. Le gisement d'Imouraren devrait produire 5000 tonnes d'uranium par an pendant plus de 35 ans. Ce chantier, entamé en 2009, a été interrompu en 2015 en raison d'une baisse du prix de l'uranium. Le groupe aurifère canadien Barrick Gold dénonce le développement de l'orpaillage clandestin qui menace la sécurité des compagnies et la durée de vie des mines en Afrique de l'Ouest. Au-delà de la destruction de l'environnement, de l'utilisation des enfants dans les mines, des abus sur les femmes et autres, cet orpaillage pose de sérieux problèmes liés à l'insécurité des sociétés minières. Pour Barrick Gold, ce problème doit être résolu dans un plan régional avec une volonté politique des pays impliqués, car les États pris individuellement ne peuvent y faire face efficacement. Terminons avec le FMI qui a révisé en baisse sa prévision de croissance mondiale pour cette année. Il la qualifie de morose et modérée dans un contexte marqué par des tensions commerciales persistantes entre Pékin et Washington et un difficile Brexit en Europe. Le FMI table désormais sur 3,2% cette année et 3,5% en 2020, soit 0,1 point de moins que lors de ses prévisions d'avant. Les pays développés par contre auront une croissance en hausse avec plus 0,1 point.
Et Yacouba Ouédraogo nous a rejoint pour les sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous et à toutes.
On commence par Chelsea qui ruine la première de Griezmann avec le Barça.
Oui, pour sa première sortie sous les couleurs des Blaugrana, Antoine Griezmann et le FC Barcelone se sont inclinés 2-1 lors d'un match de pré-saison au Japon. Tammy Abraham a ouvert la marque à la 34e minute en profitant d'un raté de Sergio Busquets pour devancer le gardien Ter Stegen et glisser le ballon dans les filets. Les vagues offensives de Barcelone en seconde période ont buté sur le portier des Blues Kepa Arrizabalaga. Chelsea a doublé la mise par Ross Barkley à la 81e minute, le Barça sauvant l'honneur à la 90e par un somptueux but d'Ivan Rakitic.
Neymar dans le groupe du PSG qui part pour la Chine.
La star brésilienne qui voudrait revenir au Barça fait partie des 33 joueurs retenus par le PSG pour sa tournée en Chine. Attendu le 8 juillet à la reprise de l'entraînement parisien, Neymar ne s'y est rendu qu'une semaine plus tard, soit le 15. L'entourage de la star a justifié son absence par des engagements prévus de longue date, une situation que le club parisien a déplorée en promettant de prendre les mesures appropriées. Le PSG affronte en amical l'Inter Milan samedi à Macao et le Sydney FC le 30 juillet à Suzhou. Le premier rendez-vous officiel de la saison est prévu pour le 3 août à Shenzhen face à Rennes, vainqueur de la Coupe de France pour le trophée des champions.
La FIFA suspend un ancien secrétaire de la Fédération du Botswana.
La FIFA a banni à vie Muketsi Ngotlele, ancien secrétaire général de la Fédération botswanaise de football. La commission d'éthique l'a reconnu coupable d'avoir accepté des pots de vin dans le cadre de manipulation de matchs internationaux, selon le communiqué de la FIFA. Il a également écopé d'une amende de 45 000 euros. La procédure contre l'ancien dirigeant a été engagée en septembre 2018 dans le sillage d'une enquête autour du Singapourien Wilson Raj Perumal, impliqué dans plusieurs scandales de trucage de matchs. Ce dernier a été arrêté en Finlande en 2011 pour avoir arrangé des matchs de première division du pays.
Enfin, Yacouba, des nouvelles de transfert ici en NBA.
Les Los Angeles Lakers ont recruté Kostas Antetokounmpo, le petit frère de Gianni, le meilleur joueur de la ligue qui lui évolue avec Milwaukee. Kostas, 21 ans, a signé un contrat à deux entrées avec les Lakers, ce qui signifie qu'il peut être aligné soit avec l'équipe première, soit avec l'équipe réserve. La famille Antetokounmpo pourrait même avoir trois représentants en NBA durant la saison à venir, car le frère aîné de Gianni et Kostas, Thanasis, 27 ans, a lui aussi été engagé par Milwaukee pendant l'intersaison. Les trois frères nés en Grèce dans une famille d'immigrés nigériens représenteront la Grèce lors de la Coupe du Monde qui débute en Chine le 31 août.
Merci Yacouba.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour, et on commence par le Mexique. La conférence mondiale sur le sida s'est ouverte dimanche à Mexico avec au centre des échanges le VIH comme un autre défi lié à la crise migratoire latino-américaine. À l'effet, de nombreux migrants centra-américains sont contraints d'émigrer par manque de médicaments. D'autres ignorent qu'ils sont porteurs du virus. La rencontre intervient quelques jours après que l'ONU SIDA a rendu public son rapport semestriel sur le virus. Arzuma Compaoré.
6 000 participants, scientifiques, médecins, activistes et autorités sont à cette 10e conférence scientifique mondiale. L'objectif, faire le point sur les derniers traitements et aborder les enjeux sociaux et humains qui en découlent. Selon les organisateurs de la conférence, l'un des objectifs est de montrer l'impact de la migration, notamment sur les personnes atteintes en Amérique latine. Si le système de santé publique mexicain offre un accès gratuit aux antirétroviraux, certaines institutions exigent des papiers en règle, voire un emploi, à l'exception de quelques cliniques comme la clinique Condesa, qui accueille des patients de tous les pays et leur offre un traitement gratuit, peu importe leur statut légal. Dans son rapport semestriel, l'ONU SIDA note que quelque 770 000 personnes dans le monde sont mortes de maladies liées au SIDA en 2018, ce qui représente une baisse d'un tiers depuis 2010.
Michel Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales au Mali. La situation de la lutte contre le sida au Mali ressemble un peu à la situation de la lutte contre le sida en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale en général. Le Mali, nous avons un problème majeur. 66% des populations vivant avec le VIH ignorent leur statut sérologique et des facteurs liés à la stigmatisation, comme vous le savez, à la rupture des tests et même l'organisation des services. Demeure encore des freins à l'accès au dépistage. Il est important d'aller maintenant avec des programmes modernes qui existent, tels que par exemple l'autotest que nous avons lancé au mois de juin depuis que je suis arrivé avec le programme Atlas. Avec cet autotest, on va ramener le patient au centre du programme et nous allons le rendre acteur du changement et cela va favoriser la démédicalisation. Pouvoir se faire dépister sans être stigmatisé. Et cela va changer complètement la nature de nos programmes. Moi, je suis convaincu qu'avec la recherche scientifique, avec les nouveaux résultats que nous avons aujourd'hui à Mexico au niveau de la conférence, on peut aller vers le contrôle de cette épidémie-là.
Si le nombre de décès liés au sida en Afrique, le continent le plus touché par l'épidémie, a chuté cette décennie, l'Europe de l'Est a vu le nombre de morts augmenter de 5% et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de 9%. Des décennies de recherches n'ont pas encore permis de trouver ni un remède ni un vaccin contre le VIH qui a infecté près de 80 millions de personnes et en a tué plus de 35 millions depuis le début des années 80. Le rapport a également averti qu'un manque de volonté politique associé à une diminution des financements risquait de saper les progrès réalisés jusqu'à présent. L'année dernière, 19 milliards de dollars ont été dégagés pour la riposte au sida, soit plus de 7 milliards de moins que les 26,2 milliards estimés nécessaires d'ici 2020.
Brexit, crise iranienne, incertitude économique, voici quelques-unes des difficultés qui attendent le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, à compter de demain mercredi. Quels sont ses atouts pour rassurer les milieux économiques qui redoutent d'un divorce douloureux avec l'Europe? On en parle avec John Henry, correspondant Europe du quotidien britannique The Guardian.
Il n'en a pas. Boris, il compte tout simplement sur le rhétorique, les promesses, énormément d'optimisme. Il dit que, en gros, il suffit de croire dans le Brexit pour que ça marche. Il suffit de dire que la Grande-Bretagne est un grand pays et a survécu au pire, bien pire que le Brexit. Que tous ceux qui prétendent que un Brexit sans accord sera catastrophique catastrophique pour l'économie britannique. Ce sont des défaitistes.
Peut-il alors mettre en œuvre tout au moins ce Brexit sans exacerber les profondes divisions sur la question devenue le centre de gravité de la société britannique ?
Pour mettre en œuvre un Brexit sans accord, ce n'est pas si compliqué que ça, puisque c'est l'option par défaut. Si oui ou non, Boris est capable de réunir d'abord son parti, ce qui n'est pas du tout sûr, et ensuite le pays, tous les deux polarisés, c'est difficile d'exagérer à quel point la Grande-Bretagne est divisée par la question du Brexit. Si oui ou non Boris peut mettre en œuvre le Brexit et réunir le pays, il y en a beaucoup qui le doutent. C'est une tâche extrêmement compliquée.
À vous entendre, sa désignation en tant que Premier ministre va conduire la Grande-Bretagne droit dans le mur, c'est bien cela ?
Droit dans le mur, je ne sais pas. Il est possible. Boris Johnson, c'est un homme politique qui a toujours été capable de changer ses opinions. Il est aussi capable, c'est peut-être le seul homme politique, qui est capable de vendre le deal, l'accord négocié par Theresa May, avec quelques petits changements, quelques amendements. Il est possible qu'il arrive à vendre quelques changements à cet accord à la Chambre des communes. S'il arrive à faire cela, on sortira avec un accord. Et voilà, je ne dirais pas que tout ira bien, mais ce ne serait pas la catastrophe annoncée.
John Handley, journaliste au Guardian. L'autonomisation des communautés est l'une des stratégies de réduction de la pauvreté. C'est ce qui est expérimenté dans une localité dans le sud du Togo où l'activité de vannerie permet à la population de mieux vivre et de faire des projets d'avenir. Notre correspondante Kayi Lawson s'est rendue dans un canton de Vogan. Voici son reportage.
Nous sommes à Vogan ou Gadomé, à environ 80 km au nord-est de Lomé. Dans une grande cour, une dizaine de vanniers sont à l'œuvre. L'osier, qui est considéré aujourd'hui comme de l'or dans la localité, n'était que de l'herbe nuisible il y a encore moins d'un an. Ce matériau prisé dans la vannerie fait le bonheur de tout un village depuis que la société Ten by Tree a ouvert les yeux de cette population sur l'osier. Kossi Vileka, artisan vannier. Ten by Tree nous a montré comment on peut faire des sacs et paniers avec de l'osier. Cette herbe, nous l'avions toujours considérée comme nuisible. Nous ne savions pas qu'elle a une si grande valeur. Avant, nous utilisions des herbicides contre l'osier, mais aujourd'hui, c'est notre allié contre la pauvreté. L'osier nous sert de matière première pour la confection de très belles œuvres qui sont exportées. Avec l'osier, les artisans produisent des sacs et paniers qui sont achetés par la société Ten by Tree qui les achemine vers les États-Unis. Des sacs et paniers qui ne sont pas disponibles sur le marché togolais. Et Dosonsi, directeur de Ten by Tree Togo, affirme que la société permet aux artisans d'avoir accès au marché américain et de disposer de revenus conséquents.
Ten by Tree leur a garanti des marchés. C'est-à-dire si tu fais, par exemple, 10, 15, 20, 30 paniers par mois, Ten by Tree prend l'engagement de racheter tous vos paniers. L'impact économique est vraiment palpable. C'est-à-dire les gains tirés de la vente de ces paniers vous permettent d'économiser et d'ici 3 ans de mettre en place votre propre business. Ça vous rend autonome après 3 ans. Et vous êtes certifié. En quelque sorte, on vous sort de la pauvreté.
Depuis l'implantation de Ten by Tree à Vogan ou Gadomé, la population, du moins ceux qui collaborent avec le groupe américain, ont le sourire aux lèvres. Dans 3 ans, ces artisans disposeront d'assez d'économies pour créer leur propre business et vivre leurs rêves. Grâce à cette activité et l'avantage que nous accorde Ten by Tree, en achetant nos paniers, je pourrai faire d'économies et devenir une grande commerçante. Avec l'épargne, j'envisage faire du commerce, ce qui me permettra de sortir de la pauvreté.
Tembaitri
s'est donné pour mission de nous sortir de la pauvreté. Mon rêve, c'est d'avoir ma propre ferme agropastorale et je pense que Tembaitri m'aidera à le réaliser.
Anila.
La vannerie ne profite pas qu'aux artisans. Toute la communauté de Vaughan ou Gadomé en a pour son compte, surtout les élèves. Tembaitri vient d'ériger dans la localité un bâtiment de 3 salles de classe dans l'école primaire et d'équiper le collège en table banc. Kailson, de retour de Vaughan ou Gadomé pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif « À votre avis » du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Sénégal se trouve au cœur de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Depuis quelques années, toutefois, les poissons se font de plus en plus rares, ce qui affecte de nombreux pêcheurs artisanaux, comme dans la ville de Saint-Louis où s'est rendu Echa Saraï. Reportage.
À Saint-Louis, la pêche est une tradition ancestrale. C'est un savoir-faire qui se transmet de père en fils. Mais la pêche n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, a dit Ousmane Diop, pêcheur à Saint-Louis.
Nos parents avaient de la chance, à des règles traditionnelles dont la communauté des pêcheurs était bien respectée. Mais maintenant, tout a changé. Les familles s'élargissent et on utilise du matériel qui n'existait pas avant.
Le marché est saturé. Les familles sont plus larges et les enfants constituent une grande partie de la main-d'œuvre. Beaucoup de pêcheurs vont pêcher plus loin, en Mauritanie notamment. La Mauritanie a augmenté la sécurité dans ses eaux. Et les pêcheurs sénégalais qui s'y aventurent, comme Malik Fall, risquent d'être arrêtés et condamnés.
Si tu payes, on te rend ton matériel. Si tu ne payes pas, on va le confisquer. Oui. Mais on va te tenir là-bas deux.
Mais à part ces difficultés avec les autorités mauritaniennes, Fall et les autres pêcheurs disent que le problème le plus pressant est celui de l'avancée de la mer.
L'avancée de la mer affecte notre travail. C'est pourquoi on peut pouvoir atterrir au bord de la mer. On est obligé de faire le tour sur la brèche.
La mer a englouti des bâtiments entiers sur la plage de Saint-Louis. Auparavant, des femmes séchaient le poisson sous des tentes sur la plage. Mais actuellement, elles sont obligées de travailler dans des petites échoppes en ville, a dit Aminta Sek, veuve d'un pêcheur.
On a subi des pertes. La difficulté la plus pressante ici, c'est que l'espace est réduit, c'est trop petit. Avec l'odeur du poisson et la chaleur, on étouffe. Au moins quand on était au bord de la mer, on respirait de l'air frais.
Mais les pêcheurs et leurs familles disent qu'ils n'ont de choix que de s'habituer au travail dans les nouvelles conditions, a dit Mustapha Diang, secrétaire général du syndicat des pêcheurs au Sénégal.
Où nous les pêcheurs, nous n'avons qu'une seule activité, depuis nos arrière-grands-pères jusqu'à nos jours. Nous sommes pêcheurs de père en fils. Nous n'avons qu'un seul métier, c'est le métier de la pêche. Quand ça marche pour nous. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas pour nous.
Même en surmontant ces difficultés que leurs parents n'ont pas vécues, les pêcheurs s'inquiètent pour l'avenir de la pêche et celui de leurs enfants, qui risquent de se retrouver un jour sans gagne-pain. Echa Saraï, VOA Afrique, Saint-Louis.
Merci Echa Saraï. C'est la fin de cette édition mise en onde par Lionel Gaïma. Carl Starling était à la console. John Lyndon était à la présentation de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa,
Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.